Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. Aujourd'hui, à la réalisation et à la technique, des vieux complices Marco, Tom et Victor qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Et votre serviteur, Andrés Atenza. Aujourd'hui, Sentinelle d'Humanité reçoit un professionnel du secteur social et médico-social, mais particulièrement dans le social, M. Nicolas Gadoni, qui est le directeur de l'association ADES Europe, une association dont le siège social est en Ariège. Nous parlerons bien entendu de l'Ariège, de l'ensemble donc des établissements, du développement de cette association ADES Europe, Association pour le développement économique et social en Europe. Monsieur Nicolas Gadoni, directeur depuis 2000, directeur général depuis l'an 2000. Aujourd'hui, monsieur Nicolas Gadoni, 22 ans d'activité à la direction générale. C'est quand même une belle prouesse.
Merci, bonjour à vous d'abord.
Et alors, dites-moi, comment vous êtes arrivé à la direction générale de cette association? En lisant ou en parcourant votre CV, vous démarrez avec un bac, le premier degré de l'enseignement supérieur, mais une orientation qui n'est pas bonne, vous allez faire de la pharmacie, alors que vous êtes plutôt un homme de l'action. Au bout de quelques années, trois ans, qu'est-ce que vous avez fait avec la pharmacie? Ça ne vous plaisait pas, monsieur Gadoni?
Ben finalement, je me suis aperçu assez rapidement que ce n'était pas nécessairement ma voie.
Ce n'était pas le métier que vous voulez,
pas le métier
dont
que
vous
je
rêviez.
Faire. C'était peut-être le métier que je voulais que je fasse mes parents, mais peut-être pas le mien. Voilà.
Je sais qu'ensuite, vous êtes allé vous former, ou en tout cas, aux pupilles de l'enseignement public, ce qui est aussi une des grandes fédérations et des associations départementales très présente dans le secteur de la protection de l'enfance et dans les PEP 31, donc les pupilles de l'enseignement public 31, vous avez commencé à vous former?
C'est ça. En fait, après avoir fait ces trois années de pharmacie, j'ai souhaité m'orienter vers un secteur que je connaissais de près malgré tout, parce que mes parents y œuvraient depuis des années. Ma mère était psychologue du travail, mon père directeur de CAT, donc à leur grand malheur, parce qu'ils ne voulaient pas que j'intègre ce secteur-là, je me suis orienté vers ça. Et au départ, j'ai commencé sans passer par l'école, en travaillant directement. Finalement, j'étais peut-être un précurseur, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'alternance. Et j'ai recherché un employeur qui pouvait m'embaucher en cours d'emploi.
Et voilà. Ça a été une réussite. Bien entendu, vous obtenez le diplôme d'éducateur spécialisé et vous démarrez votre carrière. D'abord comme éducateur spécialisé, ensuite chef de service. Vous me dites, en parcourant votre CV, que vous avez exercé, pourrait-on dire, quasiment toutes les responsabilités dans le secteur. Éducateur, chef de service, directeur adjoint et ensuite, bien entendu, directeur. Parcours, pourrait-on dire, tout à fait classique dans le secteur?
Aujourd'hui, peut-être pas. À l'époque, oui. Aujourd'hui, beaucoup moins. C'est vrai que les directeurs généraux d'association ne sont plus nécessairement issus des professions de base
d'éducateurs éducatives.
Oui, dites éducatives. Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues. Donc pour l'époque, oui, mais aujourd'hui, peut-être pas.
Vous avez obtenu votre diplôme de CAFDES, qui est le diplôme de l'école de Rennes, qui est l'école de référence dans le secteur. Et vous démarrez donc ce travail de directeur général dans les années 2000 dans l'association ADES, je rappelle, Association pour le développement de l'économie sociale en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la création de cette association et puis l'histoire? Si je vous dis cela, M. Gadoni, il y a beaucoup d'associations dans les départements où vous êtes présents, de la protection de l'enfance, des associations majeures, on ne va pas les citer aujourd'hui toutes, mais pourquoi cette association s'est-elle créée D'abord en Ariège, et pourquoi elle a fait tache d'huile dans les autres départements. Mais d'abord, pourquoi ce besoin de créer, de singulariser. J'ai également devant mes yeux le projet associatif, et nous parlerons de votre association sur son engagement, sur les valeurs qu'elle porte d'émancipation, de dignité de la personne, de laïcité. L'histoire, pourquoi s'est-elle créée à ce moment-là ?
Alors, elle m'a précédé, hein, l'histoire, donc je la connais de très très loin, mais je sais qu'en 1986, c'est le SCI, la société, le Service Civil International, qui avait créé un établissement, l'établissement Le Valier, qui accueillait une quinzaine d'adolescents. C'était à l'époque des événements de Vaux-en-Velin, donc c'était un sujet brûlant, et certains administrateurs avaient souhaité mettre en place une association pour venir en aide à ces jeunes en difficulté.
Si mes souvenirs sont bons, je me souviens, il y avait eu des opérations organisées par les PEP parce que l'été était très chaud.
Tout à
fait. Il faut entendre l'été chaud. Entendre par cela, il y avait des émeutes très très dures à ce moment-là dans les mal-lieux, on appelle aujourd'hui les quartiers dits sensibles, et beaucoup d'associations ont organisé des séjours pour ces enfants qui étaient en totale déshérence.
Exactement. Et donc à l'époque, la coutume était de les sortir des quartiers et de les amener à la campagne ou à la montagne. Et donc là, ce fut le cas à Oust, en Ariège, une quinzaine d'adolescents, puis 25 adolescents en suivant, avec une association, donc le SCI, qui était composée majoritairement de salariés, qui étaient issus du milieu néo-rural, donc des personnes souvent qui descendaient de la capitale et qui venaient dans l'Aude, dans l'Ariège, et s'occupaient de ces enfants-là. Mais avec, si l'envie était là, si la foi y était, le professionnalisme n'était pas tout à fait au rendez-vous.
C'était des personnes qui avaient une vraie volonté, c'était des vrais militants et qui tentaient de faire, bien entendu, un travail d'accompagnement. Mais c'est vrai aussi que le professionnalisme et aujourd'hui, parfois, les troubles du comportement, les pathologies, la question de la violence de ces jeunes demandent, bien entendu, beaucoup d'expertise, quoi.
Le professionnalisme n'était pas nécessairement au rendez-vous. Par contre, la vocation était là.
La vocation était là.
Et aujourd'hui, c'est peut-être une chose qui nous manque cruellement, mais on en parlera
peut-être
un peu plus tard.
On en reparlera tout à l'heure. Il y a aussi une autre date qui est importante. 1999, un centre éducatif renforcé au Burkina Faso. C'est assez original de créer ce centre avec les autorisations, j'imagine, M. Gadoni, de la PJJ, de la préfecture, dans un pays... donc d'Afrique noire, le Burkina Faso. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette expérience ?
Alors, en fait, c'était à l'origine un transfert. Un transfert, c'est un déplacement des vacances, finalement, organisé par l'institution de jeunes qui étaient accueillis au foyer Pyrène, donc la maison d'enfants qui était située à Oust, puis à Saint-Giron. Et donc, ils avaient organisé un séjour au Burkina Faso. Et à cette époque-là, il était question de créer des UER, c'était même pas des CER, c'était des unités éducatives renforcées. Et donc la possibilité était offerte à l'époque aux associations de se présenter pour créer ce type de projet. Donc à l'époque, on était avant la loi HPST, donc il n'y avait pas nécessairement d'appel à projet, c'était les associations qui se proposaient pour monter des projets.
Les associations avaient un projet, ils montaient ce projet, ils allaient voir la puissance publique et on obtenait des financements.
C'était le CROSS. Voilà. Gros SMS de l'époque.
D'accord. Alors qu'aujourd'hui, il faut attendre des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, etc. Donc on a inversé, pourrait-on dire. La puissance publique demande et on est plutôt des prestataires de services.
On est exactement des prestataires. Ça, c'est peut-être un point qu'on discutera ou qu'on développera tout à l'heure. Je ne sais pas.
Oui. CER, Centre éducatif renforcé, dans cette même antenne, Esprit Occitanie, avec d'autres intervenants du secteur social. Nous avons parlé des CEF, des centres éducatifs fermés, bien entendu faisant référence à la loi de Perben, le ministre de la Justice, Perben 1, Perben 2. Alors, quelle est la différence entre un centre éducatif fermé et un centre éducatif renforcé ? Est-ce que c'est les éducatifs qui ne sont pas les mêmes ? Est-ce que c'est la puissance publique ou la protection judiciaire de la jeunesse qui vous demande une mission particulière ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Finalement, un centre éducatif renforcé se situe dans l'échelle des sanctions, entre guillemets, éducatives qu'il peut y avoir au niveau des jeunes, avant le centre éducatif fermé. Renforcé, si on l'appelle renforcé, il n'est pas nécessairement renforcé en termes d'encadrement. il est beaucoup moins renforcé que les centres éducatifs fermés. Il n'y a que 8 jeunes, mais il y a un taux d'encadrement qui est, de mémoire, je crois que c'est 12,3 équivalent temps plein.
Équivalent temps plein.
Pour 8 jeunes qui sont sur des sessions de 3 mois. Voilà.
Et ces jeunes, ils restent 3 mois, 2 fois 3 mois, donc au total 6 mois, ou ils peuvent rester plus longtemps.
Ils restent qu'une fois.
Une fois trois mois.
Et de plus en plus maintenant, on retrouve des jeunes avec qui on peut éventuellement prolonger un petit peu l'aventure de quelques mois, d'un ou deux mois, parce qu'ils sont sur des projets sur le territoire où est implanté le CVR. Et donc pour développer ces projets et les mettre en musique, on a besoin d'un peu plus de temps. Donc là, la PJJ nous autorise, et les magistrats aussi, à travailler un peu plus longtemps avec ces jeunes-là.
Sur 3 mois, les jeunes qui sont envoyés par la PJJ ou par le magistrat, ils ont fait quoi ? Est-ce que c'est... On en frise déjà la délinquance ? Il y a eu des difficultés avec l'autorité ? Est-ce que vous pouvez rapidement un portrait type d'un jeune que vous recevez dans vos centres éducatifs renforcés ?
Alors là, on ne frise pas la délinquance, on y est.
On y est dans la délinquance.
On y est dedans parce que là, les jeunes sont orientés. C'est une alternative à l'incarcération. Hein.
C'est une alternative, d'accord.
Voilà, donc des jeunes ont commis des délits, voire des crimes, et sont orientés vers un centre éducatif renforcé afin d'éviter une peine de prison. D'ailleurs, ils ont le choix. Hein. C'est-à-dire qu'un magistrat propose un centre éducatif renforcé aux jeunes qui n'est pas dans l'obligation d'accepter. On peut dire, non, moi, je préfère faire une peine de prison de 2-3 mois plutôt que d'aller en sévère pendant...
Si le jeune accepte de venir, comment peut-on considérer une sortie dite positive au bout de 3 mois ou 6 mois ou 4 mois ? Cela veut dire que le jeune s'inscrit dans un projet dit professionnel, il a compris qu'il a fait une énorme bêtise, pour ne pas dire plus... et qu'il est prêt à faire amende honorable et repartir sur des bonnes bases. C'est cela la sortie positive d'un centre éducatif renforcé.
Il peut y avoir différentes sorties. Il peut, dans l'idéal, rentrer chez lui, parce que le CVR, c'est une rupture. Hein. On va rompre avec ses habitudes du quartier, souvent du quartier, mais enfin, pas tout le temps nécessairement des jeunes issus de quartier, hein. Mais principalement quand même. Donc, une rupture pour rompre avec ces habitudes-là. Dans l'idéal, sur les 3 mois, le jeune peut aussi entamer une formation et la poursuivre à son domicile. Je vais avouer que ce n'est pas quand même le plus grand nombre des sorties. Souvent, ils sont réorientés, ces jeunes, vers des maisons d'enfants à caractère social pour poursuivre un apprentissage et les remettre sur de bons rails, je dirais. Voilà.
Donc il y a vraiment un lien avec les autres associations qui pratiquent donc l'accueil des MECS, donc des maisons d'enfants à caractère social. Vous-même avez et gérez des maisons d'enfants à caractère social dans d'autres départements. Alors vous êtes présent où, M. Gadoni, aujourd'hui ? Dans le département des Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Gers et l'Ariège ?
C'est ça.
Et vous pouvez nous décrire quelles sont les activités majeures de votre association, les établissements ?
Alors, comme on est parti de la PJJ, on va poursuivre dans ce sens-là. Mmh. C'est-à-dire que l'association s'est structurée autour de différents établissements qui vont pouvoir mettre en place un parcours pour le jeune au sein de l'association. Bien sûr, on peut le faire aussi avec d'autres partenaires, mais si on le fait au sein de l'association, c'est parfois pas plus mal, parce que les intervenants sont connus, les jeunes aussi, donc on progresse mieux avec les jeunes que nous accueillons. Donc, au niveau de la PJJ, on a parlé du centre éducatif renforcé qui est dans les Hautes-Pyrénées. Dans le dispositif justice, on a aussi une maison d'enfants uniquement à caractère justice, donc PJJ, qui est à Cornebarieux, c'est le centre éducatif Albatros. Un lieu de vie justice dans le Gers, à Ségoufiel. Depuis peu, on a créé aussi un service de mesure de réparation pénale à Colomiers, donc toujours en Haute-Garonne. Et à venir, un centre éducatif renforcé dans l'Ariège. Donc on va voir finalement...
Palette de prestations pour permettre à ces jeunes, et en tout cas aux magistrats et à la puissance publique, notamment la PJJ, de pouvoir trouver une alternative à ces jeunes, et donc une alternative à la prison, quoi, au quartier des mineurs.
Exactement.
Donc ça, c'est vraiment tout faire pour sortir les jeunes et qu'ils ne rentrent pas dans cette case terrible qui est la prison, parce qu'en sortant de la prison... parfois ça se passe même très mal, quoi.
Souvent.
On a l'impression que passer par la case prison, on retrouve des jeunes caïds, quoi. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, quoi? Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. On a l'impression que la prison pour ces jeunes peut être d'ailleurs même, y compris, très valorisant.
C'est souvent le cas, malheureusement.
Et malheureusement.
Après, malgré tout, on n'arrive pas tout le temps nécessairement à éviter cette case prison-là, parce que des jeunes placés en CER ou en centre éducatif, comme Albatros à Cornebarieux, malgré tout, arrivent, quoi qu'il en soit, faire aussi des bêtises. Et parfois, on n'évite pas cette prison-là. Juste pour terminer concernant la PJJ, voilà, notre idée à nous, c'était d'avoir tout le panel possible des structures justice, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui sera le cas avec la création du CEF en 2024.
Le financement le plus important, parce qu'il faut quand même parler de cela, des professionnels. Donc, vous avez un financement de la PJJ avec, pourrait-on dire, selon le langage professionnel, une tarification à la journée, c'est ça ?
Oui. Le prix de journée.
Vous négociez, c'est ce qu'on appelle le prix de journée. Vous travaillez également avec les conseils départementaux des départements que nous avons cités, le Gers. Et là, c'est plutôt une tarification
conjointe,
PJJ, conseil départemental.
Voilà, parce que nous avons souhaité systématiquement garder sur les maisons d'enfants. Donc, il y en a trois. Il y en a une sur la maison d'enfants historique, le foyer Pyrène, l'ancien foyer Duvalier dont je vous parlais en préambule, qui est devenu foyer Pyrène dans les années 2000, qui accueille des enfants adolescents de 11 à 21 ans et qui est financé par le conseil départemental et par la protection judiciaire
et
de la jeunesse.
Avant d'aller plus loin dans notre interview et présentation de votre association et diverses activités, écoutez, je vous propose une petite pause autour de William Scheller. Ça fait longtemps qu'on ne l'écoute pas sur nos ondes.
C'est une chanson pour l'automne, pour les jours où y a personne, quand la ville est sous la pluie. C'est une chanson que je te donne, tu jettes ou tu la fredonnes, elle me servira aussi. Si tu n'aimes pas trop la foule, si parfois comme moi la vie te saoule un peu, si tu te sens roulé en boule, ou si le mauvais sort te blaboule lors du jeu, n'oublie pas qu'on est deux. Savoir quand on partage à la brune la solitude de la lune devant son grand écran noir. Si tu n'aimes pas trop la foule, si parfois comme moi la vie te saoule un peu, s'enrouler en boule, ou si le mauvais sort te blaboule lors du jeu, n'oublie pas qu'on est deux. C'est une chanson que je te donne comme un gilet qu'on boutonne pour se réchauffer la vie. Je t'ai tout dit.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Sentinelle d'Humanité.
Nicolas Gadoni, notre invité, directeur général de l'Association pour le développement économique et social en Europe. Nous étions, Monsieur Gadoni, avant cette petite balade avec William Scheller. Nous énumérions l'ensemble des établissements que vous gérez avec leur financement et bien entendu les missions spécifiques. Alors je vous invite bien entendu à me faire part des autres activités qui sont les vôtres.
Donc là nous avons vu le volet PJJ, justice, avec donc pour les mineurs principalement. L'association gère aussi donc des établissements type maison d'enfants à caractère social, on l'a évoqué rapidement, avec systématiquement une double habilitation. Protection judiciaire de la jeunesse, donc justice, habilitation de justice, mais aussi aide sociale à l'enfance, l'ASE, et donc là on rentre sur notre champ, la protection de l'enfance, l'enfance maltraitée. Et donc là, l'association gère trois maisons d'enfants à caractère social, une sur Toulouse, le foyer Transition, une sur Saint-Girons, donc j'ai dit le foyer Pyrène, et enfin le centre éducatif, la MEX Estelas, à Isse, dans la Haute-Garonne. Voilà. L'association s'occupe aussi de placements à domicile. Donc là, c'est un nouveau placement qui fait suite à la loi de 2007, relayée par 2014. L'idée étant que le lieu de placement soit le domicile. Ça peut paraître un peu surprenant.
Alors, explique-nous, c'est surprenant, quoi. On dit que c'est un placement à domicile. Ça veut dire qu'il se passe quoi dans la tête de la famille et dans la tête des enfants quand vous dites qu'il y a une décision de placement à domicile?
Ben c'est un peu compliqué. Alors moi, je ne suis pas dans la tête ni des parents ni des enfants, mais c'est pas simple pour eux parce qu'en effet, un placement dans un enfant, la chose est claire. Hein, le jeune est écarté de sa famille, soit parce qu'il est en difficulté chez lui, soit parce qu'il est maltraité.
Ou qu'il peut être en danger.
Tout simplement. Là, s'il y a un placement et que le lieu de placement est le domicile, c'est que le magistrat ou le conseil départemental a considéré que la famille était plutôt bien traitante et qu'il fallait accompagner la famille dans la prise en charge de son enfant.
Et donc là, vous dites accompagner la famille, le jeune homme ou la jeune fille, quoi, c'est ça. Tout donc vous faites une action en direct et donc vos professionnels se déplacent sur le lieu de vie du jeune.
Exactement.
Directement, quoi, voilà.
Et donc là, le département a développé ce type de placement depuis 7-8 ans maintenant et ouvre énormément de placements à domicile. Or, un des écueils dans lesquels il ne faudrait pas tomber, je ne veux pas être trop polémique, c'est que ces placements-là, bien sûr, coûtent moins cher, parce qu'en termes de structure, il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de bâtiment, il y a beaucoup moins d'éducateurs, il n'y a pas de surveillance de nuit, il n'y a pas d'agent technique. Donc, pour vous donner un exemple rapide, un prix de journée en placement à domicile, c'est 65 euros par jour. Un prix de journée en MEX tourne autour de 200 euros. Voilà. Donc, il ne faudrait pas non plus que des placements en placement à domicile soit mis en œuvre à défaut pour éviter des placements plus chers en maison d'enfants.
Cela veut dire que l'évaluation est primordiale dans cette situation.
Exactement.
Il ne faut pas se tromper sur l'analyse précise quoi, et le danger ou pas de l'enfant dans cette situation. Vous intervenez également dans l'accueil d'urgence et votre association aujourd'hui accueille également des mamans avec enfants qui viennent, qui sont des mamans dites des déplacés, des réfugiés ukrainiens. Vous pouvez nous en dire un mot et dans quel département ces familles sont aujourd'hui installées?
Alors là, nous accueillons actuellement une trentaine de familles sur Saint-Girons, donc qui venaient d'Ukraine suite au...
Des mamans avec enfants, des mamans et papas, ou plutôt que des...
Principalement mamans avec enfants.
Avec enfants.
Nous avons accueilli un seul mineur qui était seul, donc isolé.
Isolé, mineur isolé.
Donc, du coup, a basculé sur une maison d'enfants à caractère social. Et il y a deux familles où il y a un papa, mais le papa est autorisé à venir et puis a souhaité venir parce que dans les deux cas, il avait des enfants handicapés.
D'accord.
Donc, il n'était pas
mobilisable
au pays. Alors,
c'est un suivi et une urgence particulière. Là, ce n'est pas la PJJ qui finance. Là, ce n'est pas le conseil départemental.
C'est l'État.
C'est l'État. Donc, c'est la cohésion sociale, c'est la préfecture. Ce sont des dispositifs expérimentaux. C'est-à-dire, il y a une durée de vie. Ça démarre et puis peut-être dans 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça s'arrête.
Ce sont des dispositifs temporaires qui étaient lancés pour 3 mois, qui sont renouvelés. Mais là, on nous demande d'orienter ces personnes plus vers le droit commun. Donc actuellement, sur les 30 familles, je crois qu'il y en a 23 à qui nous avons trouvé un appartement, un logement, et nous faisons ce suivi maintenant dans ces appartements-là.
Est-ce que ce sont des mamans ukrainiennes qui travaillent? Vous avez pu sur Saint-Girons, ou en tout cas l'Ariège de manière générale, trouver un job à ces familles?
Oui. Oui, ça s'est fait. Il y a une forte solidarité. On est ravis.
Et pour le logement, pareil, parce que le logement social, ça coûte cher en France, le logement. Donc vous arrivez à trouver, en tout cas votre association a été performante dans la recherche de départements à un tarif modéré.
Elle a pu le faire parce que justement, elle gère différents établissements de type accueil d'urgence en diffus, donc sur des appartements. Donc on a un large réseau sur le secteur de Saint-Girons, le Couserans hein, plus largement, d'appartements et de propriétaires et de bailleurs.
De propriétaires qui vous font confiance. Le tarif de location pour une famille ukrainienne, pouvez nous donner une fourchette, ça peut être entre 350, 500 euros l'appartement pour les familles,
C'est exactement ça. Je dirais entre 350 et 600, 700 euros, suivant la taille de la famille.
De la famille. Et bon,
mais pour une personne seule, c'est autour de 350 euros.
D'accord. Vous avez l'aide aujourd'hui. Ces familles bénéficient de l'aide de la CAF ou pas? Est-ce que les droits... On dit que les droits ont été ouverts ou pas? Il y avait polémique au début.
Pour nous, les droits ont pu être ouverts. Après, c'est vrai qu'on a une équipe dédiée autour de ça. On a la chance d'être sur un petit département, ce qui fait que les rapports avec l'État, les différentes instances sont plus proches et plus rapides. Peut-être pour ça que sur l'Ariège, on a pu avoir ouvrir ses droits.
Voilà. Ce sont des personnes qui bénéficient d'un dispositif ad hoc, quoi. C'est-à-dire que les 27 pays européens ont ouvert des droits très spécifiques, quasiment en mode dérogatoire, quoi. On n'a pas fait cela pour tous les autres réfugiés. D'ailleurs, il y avait une polémique, je ne voudrais pas la lancer ici, en disant... Il y a des migrants d'un côté, il y aurait des déplacés, des réfugiés de l'autre, alors que pour nous, en tout cas, pour nos associations, quand il y a des migrants, on s'en occupe. Chaque fois qu'il y a des personnes fragiles, on s'en occupe.
Exactement.
On ne fait pas de différence.
Il y a une double polémique, je dirais, parce qu'il y a eu celle-là, en effet. Les Ukrainiens, très bien, pourquoi pas les Syriens. Donc ça a grondé fort, hein, sur les marchés de Saint-Girons, au départ.
Ah oui.
La seconde polémique, ça concerne directement les SDF français qui étaient sur place et à qui on n'attribuait pas les mêmes moyens. Donc les gens disaient, pourquoi est-ce que les Ukrainiens sont finalement mieux traités que moi?
Voilà. Donc là, il y avait... votre association, j'imagine, a trouvé, comme on dit, les éléments de langage nécessaires pour communiquer avec la puissance publique, oui.
Tout à
ce
fait.
Sont des situations vraiment très compliquées.
Et puis à la différence quand même des usagers français, j'allais dire, ceux-là ont trouvé très 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 rapidement du travail. Je crois qu'on a plus de 50% de personnes qui travaillent déjà.
Déjà.
Ukrainiens, oui.
Donc l'intégration
dans le monde du travail
française,
en tout cas,
dans la communauté française se fera de façon aisée. Est-ce que vous pensez que ce sont des familles qui vont rester, qui seront de réfugiés dits politiques, vu la situation en Ukraine, ou ce sont des familles qui vont partir? Parce que ici et là, dans certains départements, on a des familles qui retournent en Ukraine.
Alors,
est votre expérience?
Il y a de tout. Il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent partir. Et là, juste avant de venir dans vos locaux, aujourd'hui, il y a une éducatrice d'une maison d'enfants qui s'occupe du jeune mineur dont je parlais, ukrainien, qui souhaite rentrer chez lui. Voilà, justement. Donc, vous voyez,
toutes les situations,
en pensant que ça va beaucoup mieux, je ne suis pas convaincu que ça aille beaucoup mieux là-bas pour l'instant. Donc, je ne lui conseillerais pas de partir. Et de toutes les façons, là, il est suivi par le conseil départemental et c'est lui qui le décidera.
D'accord. Ben, on voit bien que la guerre s'intensifie, malheureusement.
Peut-être pour faire un lien avec les activités d'ADES Europe, on a parlé de l'Ukraine, donc de l'urgence sociale. Donc il y a tout un autre pan d'établissement que gère l'association, qui est sur l'urgence sociale. Donc nous gérons des dispositifs d'accueil d'urgence de personnes SDF, des accueils de jour pour personnes en grande fragilité, en grande faiblesse. Et on ne le fait pas par hasard finalement, parce qu'on parlait tout à l'heure du développement de l'association. On l'a fait pour deux raisons. La première, c'est la loi HPST de 2010.
Alors il faut pour nos auditeurs, il faut toujours dire de quoi il s'agit. Alors c'est quoi cette loi ?
Hôpital, patients, santé et territoire de 2010.
Madame Bachelot.
Oui, qui a complètement transformé notre secteur. Et vous l'avez fait remarquer à juste titre tout à l'heure, nous devenons des prestataires depuis cette loi de l'État, de l'ARS, du conseil départemental, de la PJJ. Alors qu'auparavant, les associations avaient un engagement militant, influer sur la politique et les politiques sociales et donc proposer des projets. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire. nous sommes soumis à des appels à projets et on doit se développer de cette façon-là, en répondant à des appels à projets. Et donc, à cette époque-là, l'association comptait que plus que deux établissements, deux maisons d'enfants. Et donc, le choix était posé. Est-ce que l'association doit se rapprocher d'une association plus importante et se faire absorber? On fusionne et on est absorbé, oui, pourquoi pas. Ou est-ce qu'elle prend ou est-ce qu'elle fait le choix de se développer
d'un développement harmonieux dans le département et département périphérique. Et donc, ça a été votre stratégie.
Ça a été cette stratégie-là qui a été mise en place. Et donc, si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une quinzaine d'établissements. Et l'association est à l'abri, j'allais dire, d'une reprise éventuelle.
C'est combien de salariés pour votre association?
C'est autour de 350-400 salariés.
Et le budget consolidé, parce qu'il faut toujours parler quand même d'argent, ça donne une identité.
On est au-delà de 15 millions.
15 millions de budget consolidé pour l'ensemble de tous les établissements que vous gérez. Dans l'histoire de votre association, là, parce que ça fait, on va revenir à quelqu'un qui a marqué quand même l'insertion professionnelle dans notre République française. Votre association, initialement, le Service civil international, suite au rapport Schwarz. Mm-hmm. Et ça, c'était un rapport qui a fait référence dans notre pays, surtout sur tout ce qui concerne l'insertion professionnelle. Pourrait-on dire que c'est ce qui se faisait de mieux, en tout cas, un grand monsieur, un grand fonctionnaire de l'État qui a travaillé, bien entendu, dans l'insertion professionnelle, pour développer l'apprentissage, pour développer... Alors, vous faites référence, et votre association fait référence, parce qu'elle avait monté à l'époque des chantiers d'insertion. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à développer les chantiers d'insertion?
Alors, on fait partie, mais je crois qu'il y a l'ANRAS aussi, des rares associations qui possèdent des centres de jour. Nous avons un agrément CFAS. Donc on peut accueillir des jeunes en CFA, donc passer l'apprentissage en 3 ans. Donc on a un centre de jour, oui, sur l'Obs Santaraï. Donc on met à place de l'apprentissage. Et au niveau du chantier, cette culture, elle ne nous a pas quitté, parce que sur le centre éducatif renforcé, la mise en place de chantier est... je vous l'ai dit, la session se déroule en 3 mois. Le second mois est consacré au chantier.
Ouais. Et donc là, les jeunes apprennent vraiment les gestes des métiers très concrets, quoi.
Ils essaient.
Ça peut être maçon, la cuisine, la métallerie, la soudure, etc. Donc, une tentative d'apprendre par les mains, par le geste manuel, une véritable insertion. Ouais. Et là, les jeunes, on peut les raccrocher, comme on dit. Les éducatifs disent, on va pouvoir le raccrocher.
Alors, je vous ai dit une bêtise, si le directeur du CER... Oui. Écoute, il va pas être content. C'est pas au second mois, c'est au troisième mois.
Au troisième mois. Bon, c'est les dispositifs, on verra également. Monsieur Gadoni, directeur général de votre association, mais vous êtes impliqué, pourrait-on dire, dans la vie dite sociale du secteur. Vous êtes également délégué régional. Vos pairs vous ont élu pour représenter le syndicat d'employeurs dans notre secteur, le syndicat Nexem, et au sein de la région Occitanie, vous défendez, pourrait-on dire, vous représentez les intérêts des associations du syndicat d'employeurs Nexem qui représente l'équivalent de plus de 500 000 salariés dans le secteur, convention dite de la 66, qui est la convention de notre secteur.
Et les accords CHRS.
Et les accords. Alors, dites-moi, quel est votre rôle dans ce rôle de délégué régional? Vous faites quoi? Est-ce que vous êtes un interlocuteur privilégié des préfectures, des conseils départementaux? Est-ce que c'est vous qui négociez? Est-ce que vous conseillez vos autres collègues directeurs? Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Alors, ce qu'on essaie de faire, déjà, je ne suis pas tout seul, on est 6 sur la région, et je crois que vous en faites partie aussi. donc notre objet à nous, c'est de faire la courroie de transmission entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se décide au niveau national, et c'est pas toujours facile parce que les décisions se prennent souvent à Paris, loin parfois du terrain, et avec des personnes qui n'ont pas nécessairement la température de ce qui se passe dans nos institutions. Donc ma mission, moi en tout cas, que je me suis délégué, c'est de faire remonter les besoins des différentes associations au plus grand nombre, et notamment à Paris, voilà, pour que notre secteur puisse évoluer, parce qu'on est tous informés au courant via les médias, hein, que nous traversons une grande crise de vocation.
Alors, est-ce que vous pensez que c'est réellement cela qui se passe dans notre secteur ? Les jeunes boudent nos métiers ? Vous pensez que réellement c'est ça qui se passe, ou il se passe autre chose et on n'a pas su comprendre ces deux années de Covid ? Je voudrais citer un des grands philosophes français qui disait, Michel Foucault, qui disait « on ne sait pas penser les événements ». Est-ce que ce qui s'est passé pendant ces deux années de Covid, est-ce que ça nous a transformés réellement ? Ou vous dites-vous vocation, est-ce que les jeunes disent « ces métiers, on ne peut pas bien en vivre, j'irai faire autre chose ».
La crise sanitaire a été un révélateur.
Un révélateur.
Un révélateur de ce qui couvait déjà. Ce qui couvait, j'en ai légèrement parlé quand je parlais de la loi HPST et le fait que notre secteur est devenu prestataire. Peut-être qu'il y a quelques années, on arrivait en tant qu'éducateur, ça a été mon cas. J'avais des projets, je pouvais les mettre en avant, je pouvais les réaliser. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc là, c'est un premier souci. Hein, quand on a envie de développer des choses, ben, le secteur-là, aujourd'hui, il n'offre que très peu de possibilités. Le second point, c'est que ce sont des métiers méconnus aujourd'hui.
Et ce sont des métiers difficiles.
Ce sont des métiers difficiles, mais de beaux métiers.
D'accord. Il faudrait aujourd'hui, plus que jamais, encourager des jeunes bacheliers à aller dans les écoles d'éducateurs, assistants sociaux ou autres.
Alors,
vous faites un appel.
C'est ce que nous efforçons de faire. Nous allons tous dans les salons TAF. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Action, formation, le T, je ne sais plus.
Et travail, oui.
Travail, voilà. pour prêcher la bonne parole et attirer les jeunes vers ce secteur-là, parce que c'est un beau secteur. Et de tout ça, à tout ça vient de se rajouter aussi la perte du pouvoir d'achat, hein, qu'ont pu avoir les professionnels de ce secteur-là. Ils ont perdu pas moins de 20-25% de pouvoir d'achat en une quinzaine d'années. Donc c'est un secteur où les professionnels sont mal payés, je n'ai pas peur de le dire. Qui ne viennent pas ranger nos affaires, voilà, aujourd'hui. Donc, on se bat pour que ce secteur soit revalorisé.
Je vous propose de revenir tout à l'heure sur cette question de la valorisation salariale dans le secteur social et médico-social, qui mériterait plusieurs émissions, mais avant tout, une autre pause musicale, et je vous propose d'aller se promener et danser avec Barry White. Moi, je crois que tout le monde a dragué un jour ou l'autre avec ce grand chanteur. À tout à l'heure.
You got it.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Sentinelle d'Humanité.
Mon invité, Nicolas Gadoni, qui est le directeur général de l'association ADES Europe, association pour le développement de l'économie et du social en Europe. Monsieur Nicolas Gadoni, nous avons parlé de vos activités, on a parlé de votre histoire au personnel, on n'arrive pas par hasard dans ce métier, de votre investissement. L'association est présidée par une personnalité, ou en tout cas un personnage important de l'Ariège.
Tout à fait. Elle est présidée par le docteur Henri Pouchès, qui est actuellement à la retraite, mais qui était chef de service pédopsychiatrique de l'Ariège. Et qui a œuvré aussi dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers. Donc c'est quelqu'un de connu dans le secteur. Et le conseil d'administration d'ADES Europe est principalement composé quand même de professionnels de ce secteur-là. Voilà. Directeurs généraux, mais aussi certaines personnes de la société civile, des avocats.
Qui donnent de leur temps bénévolement.
Qui donnent de leur temps et qui amènent un regard totalement différent, qui est totalement appréciable.
Pour vous, c'est important, c'est une... Là, pourrait-on dire, mais vous allez me dire oui. La gouvernance et la dirigeance, ça se passe bien, il y a un bon binôme, comme on dit,
ça
entre votre président
bien.
Et vous-même.
Ça se passe très bien, ça fait plus de 20 ans que ça dure, ça fait 22 ans que ça dure, voilà. Donc ça se passe toujours
donc
bien.
Donc c'est un bon mariage.
Tout à fait.
Revenons à la revalorisation de notre métier, manque de vocation. J'ai pas abordé la question, mais... C'est peut-être un objet polémique également. Certains professionnels disent que le système Parcoursup a plombé réellement également les métiers dits du social. Parce que quand les jeunes donc font des choix dans Parcoursup, ils mettent souvent les métiers du social en 3e, 4e, 5e position. Donc on a l'impression que ce n'est pas du premier choix, que ce n'est pas choisi, qu'on se laisse mener, alors que jadis, le système de sélection faisait appel réellement à une motivation profonde du jeune homme, de la jeune fille, bachelière. Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que c'est le système Parcoursup qui n'est pas bon, ou est-ce qu'on est face à une crise de vocation ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Donc on est face à une crise de vocation, si bien que les jeunes ne souhaitent pas nécessairement faire ce métier en premier choix, parce qu'ils n'ont pas cette vocation-là, ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas non plus la connaissance, on manque de publicité autour de notre métier, qui est un beau métier, je le rappelle. Et après, c'est vrai que le système Parcoursup ne nous aide pas. Alors je suis en parallèle aussi trésorier de l'association Erasme du centre de formation, donc on analyse ces données-là. C'est vrai que depuis que le métier d'éducateur spécialisé est rentré dans la filière Parcoursup, on a de moins en moins de personnes qui...
De candidats. De moins en moins de candidats. Ouais. D'où la question de la sélection. Et donc, comment peut-on créer de la vocation ? Il faut rendre attractif le métier. Est-ce que votre syndicat d'employeurs réfléchit à ces questions de l'attractivité des métiers ? Et comment pour rendre attractif un métier qui aujourd'hui semble invisible au regard de la plupart de la population et de nos concitoyens ?
Alors, ils y réfléchissent. Nous y réfléchissons aussi beaucoup en région. Mais je pense qu'il faut faire des campagnes publicitaires. Il faut expliquer ce qu'on fait. Il faut aller voir les écoliers, enfin, ou les lycéens. Il faut aller voir les étudiants. Il faut rencontrer les personnes pour expliquer réellement ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et la beauté de ce métier.
Si on parle de la valorisation du secteur, il y a eu, on revient très technique, mais quand même, l'ancien ministre, M. Véran, avait lancé le Ségur donc de la santé. Ensuite, il y a eu
la
revalorisation sur la question de M. Lafourcade, un autre grand fonctionnaire, ancien directeur d'une ARS. Ensuite, il y a eu la déclaration... en février, du Premier ministre, M. Castex, qui a parlé d'une revalorisation pour certains métiers. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est mécontent de ce système et des personnes sont encore oubliées. Il y a aujourd'hui des oubliés du Ségur, voire même des désespérés du Ségur.
Nous sommes tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a une manifestation demain à ce sujet-là et après-demain. Alors, je m'en méfie un petit peu parce que ils ne vont pas manifester que pour ces oubliés du Ségur, ils vont aussi manifester pour la refonte de la convention collective de notre secteur, qui est un sujet à part et qui pour moi est indispensable. Néanmoins, vous avez raison, il y a toujours des oubliés du Ségur, parce que les comptables, parce que les secrétaires, parce que les agents d'entretien, parce que les directeurs ne sont pas revalorisés, et sans ces personnels-là, nos structures ne fonctionnent pas.
On voit bien que le secteur dit sanitaire et les hôpitaux, malgré tous les efforts financiers qui ont été faits. On sait que ça risque d'être très, très chaud pour les urgences qui ferment les unes après les autres. Le secteur ne se porte pas bien, quoi. Hein. Alors, est-ce que réellement, le syndicat d'employeurs, Nexem, employeur différemment, est-ce qu'on peut dire que nous faisons tout collectivement pour amener haut et fort cette convention? Certains disent qu'on veut une convention plancher, et d'autres qui veulent une convention plutôt haute qui permettra d'attirer des grands professionnels et plus de professionnels. Quelle est votre analyse sur cette situation d'une convention plancher, une convention de haute tenue, pourrait-on dire, qui va valoriser l'ensemble des salariés?
Moi, je pense que les 183 euros vont venir à peine compenser les pertes de salaire dont j'ai parlé tout à l'heure et que la convention collective unique étendue va devoir proposer aux professionnels un salaire décent, donc être tiré vers le haut. Et il est hors de question qu'on négocie une convention plancher. Je ne le vois pas du tout comme ça.
Vous ne le voyez pas comme ça, en tout cas, comme professionnel. Également, les questions de la qualité de vie au travail. Votre association est également investie. Vous essayez de, pourrait-on dire, de compenser en apportant une meilleure qualité de travail dans vos organisations pour permettre d'attirer des futurs professionnels, voire même de les garder aujourd'hui, quoi.
La difficulté,
on est dans cette difficulté, me semble-t-il, quand on interroge les dirigeants.
On en est là aujourd'hui, en effet. Alors, on ne s'en sort pas trop mal à Des Europe parce qu'on a la chance d'être une association familiale, pas trop importante, pas trop petite non plus. On est un peu entre les deux. Et ça nous permet de tisser des liens, des relations humaines forts et importants qui fait que les gens restent souvent à l'association. Voilà. Par contre, le recrutement des nouveaux professionnels se complique de plus en plus. Voilà. Et nous avons aussi pas mal de départs à la retraite. Donc, il faut les remplacer, ces gens-là. D'accord. C'est pas simple.
Là, donc, dans le secteur, la pyramide des âges montre que pour beaucoup, beaucoup d'associations, en tout cas de la région Occitanie, la pyramide des âges n'est pas favorable et donc il va y avoir des départs massifs dans beaucoup d'établissements et donc une perte, là c'est clair, une perte de compétences forte dans le secteur, quoi. Comment vous faites? Vous recrutez des apprentis? Vous m'avez dit que vous participez à des salons, mais par exemple, des apprentis, est-ce que c'est une pratique que vous réalisez dans vos établissements?
C'est une pratique qu'on essaie de développer.
Au-delà des stages, bien entendu.
Donc, il y a des stages, bien sûr, bien entendu, des stages longs, courts, etc. On attire autant que possible les jeunes à venir voir l'association et pour plus tard y travailler. On développe aussi l'apprentissage, mais pour développer l'apprentissage, il a fallu convaincre aussi les financeurs, parce que l'apprentissage... ça coûte de l'argent et on a uniquement une enveloppe dont on dispose. Et quand l'apprentissage n'est pas compris à l'intérieur, ben on ne peut pas prendre d'apprenti. Alors là, donc c'est... aujourd'hui, les politiques changent. L'État donne des aides, je crois, de 8000 euros pour les premières années. Les départements, la PJJ financent des apprentis. Donc finalement, le recrutement se fait le plus souvent par apprentissage. C'est-à-dire qu'on recrute des apprentis qui se forment chez nous. Et
après, vous les gardez. Vous leur faites une proposition de CDI.
Exactement. Donc, il faut leur donner envie de rester.
Voilà. Et pour qu'ils ne partent pas à la concurrence. Ça aussi, quoi. Ça peut donner des ailes, quand même.
Ça peut donner des ailes, mais tant qu'ils restent dans le secteur, moi, ça me va. Donc, s'ils s'en vont à la ZEI, à la Galperi ou à l'ENRAS, ils sont dans le secteur, ça me convient. Ouais. Parce que, en contrepartie, il y aura d'autres personnes qui étaient de là-bas qui viendront chez nous.
Voilà. Donc, il y a un travail collectif à mener avec les autres associations. Vous êtes impliqué également, cette émission arrive au terme, hein, mais vous êtes impliqué également à la CNAP. Alors là, la CNAP, c'est la Convention pour la protection de l'enfance, une association importante en France et importante dans la région Occitanie. Vous pouvez rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, nous dire quels sont les chantiers qui sont menés par cette fédération ?
Donc la fédération, la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfance, qui est pilotée sur la région, en tout cas par Jean-Louis Lausson, est une association nationale.
Monsieur Lausson, qui est le directeur général de...
La sauvegarde Haute-Occitanie.
Haute-Occitanie, voilà. Et on salue, bien entendu, notre ami Jean-Louis.
Exactement. Et donc, ben, cette fédération, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est une fédération qui œuvre à protéger les enfants et être vigilante sur tout ce qui est réglementation, loi, autour de la protection de l'enfance. Voilà. Et donc, oui.
On ne nous a pas, ni à vous ni à moi, proposé d'être ministre et rentrer dans ce gouvernement. Mais imaginons, faisons un rêve, on vous propose d'être ministre. Vous êtes dans la possibilité de pouvoir changer quelque chose parce que vous avez le pouvoir. Dans la protection de l'enfance, M. Gadoni, vous changeriez quoi ou quelle serait l'action que vous aurez envie de mener ? C'est pas une question piège.
Je suis pas
ou en
ministre,
tout cas, hein, une grande réforme que vous souhaiterez voir aboutir.
Non, moi, simplement, je vais voir vraiment en macro, il faut donner des moyens à ce secteur-là. Il n'y a pas assez de moyens dans ce secteur, voilà, pour payer les gens, mais aussi pour accompagner les jeunes, hein, que nous avons en charge. Il faut savoir qu'entre 70 et 80% des prix de journée vont au salaire. Donc il reste déjà plus grand-chose pour les enfants. Hein. Et autour de ça, ben, y a des murs, y a des bâtiments, il y a du chauffage, il y a des véhicules. Donc je pense que le secteur manque de moyens. Et si j'avais la possibilité de faire aussi quelque chose au niveau politique, je reviendrais au système ancien où les associations peuvent influer sur les politiques en proposant des projets et puis en se laissant guider par l'ARS, le département, la PJJ, qui leur propose de monter des structures telles qu'elles ont définies et sans prendre en compte leur avis.
Nous rentrons dans une période électorale pour choisir les représentants à l'Assemblée nationale. Est-ce que votre syndicat va faire du lobbying auprès des futurs candidats et candidates pour influencer, comme on dit, un travail de communication pour porter les dossiers très rapidement dès l'installation de l'Assemblée fin juin ?
Bien sûr.
Vous allez battre la campagne, amener des dossiers, argumenter pour que des candidats sérieux épousent votre cause.
On l'espère. Je pense qu'ils l'épouseront tous avant les élections. L'idée, c'est qu'ils le fassent réellement quand ils seront élus. Voilà. Donc, il va falloir faire écrire les choses, peut-être.
Mais écoutez, M. Gadoni, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Et à très bientôt, chers amis, chers auditeurs. On se retrouvera pour d'autres invités du secteur social et médico-social. À très bientôt.
Merci à vous.